Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime avec Perrine Suquet, avec Marco Agnès et puis André Facetta aujourd'hui qui est à la technique de l'heure du crime et à la une, ce que j'oserais appeler les deux assassinats de Jean Jaurès. La formule n'est pas de moi, mais on va beaucoup parler avec mes invités de l'assassinat de Jean Jaurès le 31 juillet 1914 à Paris alors qu'il dînait dans un café qui est devenu célèbre par la suite, le Café du Croissant. D'ailleurs, on le visite encore aujourd'hui et on en parlera dans cette émission. Et puis, l'assassin, Raoul Villain, dont on va beaucoup parler également, notamment avec Sophie Darblade Mamouni, qui a consacré un livre à ce personnage. Il a été arrêté quelques instants après cet assassinat, incarcéré bien sûr, mais il a passé finalement la Première Guerre mondiale en prison et le procès a eu lieu après la guerre en 1919. Et c'est là où on peut être fondé à parler, comme l'ont fait les amis de Jaurès, du deuxième assassinat de Jean Jaurès. Eh bien, Raoul le Villain a été acquitté. On a considéré que c'était une sorte de crime passionnel politique. Mais il a eu un destin funeste dont on parlera également. Bonjour Bruno Fulini.
Bonjour.
Alors c'est à cause de vous en fait qu'on fait cette émission. Il faut le dire tout de suite. Vous êtes écrivain, historien, maître de conférence à Sciences Po. Vous connaissez particulièrement bien l'histoire, avec un H majuscule, et l'histoire parlementaire de notre pays. Et vous venez de faire paraître aux éditions Talendier un livre intitulé « Le monde selon Jaurès ». Alors, on l'a compris, 1914-2014, c'est le centenaire. Et en tout cas, cette année, il fallait pas rater l'occasion de reparler de ce personnage. Et au-delà, évidemment, j'allais dire du fait divers dramatique, parler de cet homme. Qu'est-ce qu'il représentait à son époque? Qu'est-ce qu'il représente encore aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il avait à dire? Pourquoi on l'a tué? Et puis pourquoi il y a eu... Alors moi, je vais vous dire tout de suite ce qui m'a frappé dès l'ouverture de votre livre, c'est cette espèce d'atmosphère de haine qui s'est peu à peu cristallisée autour de ce responsable socialiste et créateur de l'humanité.
Oui, Jean Jaurès est un personnage extraordinaire à tout point de vue. C'est un intellectuel, un professeur de philosophie normalien qui s'engage en politique, qui assez vite d'ailleurs va renoncer à l'appellation de professeur. Quand on lui demande sa profession, il dit journaliste, parce qu'en 1904, il crée ce quotidien qui existe toujours et qui au départ vise à fédérer toutes les chapelles du socialisme, de même que l'année suivante, il va créer ce qui est l'ancêtre du parti, la SFIO. Et toujours pareil, l'idée de rechercher l'unité, l'unité des tendances, l'unité du mouvement ouvrier pour constituer une vraie force politique. Oui, mais cette force politique, elle se situe donc à une extrême gauche, avec des idées qui dérangent. Par ailleurs, Jaurès va être un des grands Dreyfusards. Donc on va pas raconter l'affaire Dreyfus aujourd'hui, mais il va donc s'attirer déjà et avant tout la haine de tous les antisémites, nationalistes, pour qui Dreyfus est coupable, et même s'il n'est pas coupable, il faut faire en sorte qu'il soit coupable. Voilà. Pour Jaurès, qui est un homme épris de justice, c'est hors de question. Et la justice, tout court, va de pair avec la justice sociale. Il va défendre ces idées-là, et il va également défendre ces idées de paix.
Voilà, il va défendre les ouvriers dans des grèves, il va expliquer qu'il y a une violence sociale dont les ouvriers sont victimes, il va attaquer les patrons, et puis surtout, il va être aussi, alors non pas peut-être pacifique, mais en tout cas il refuse de toutes ses forces cette Première Guerre mondiale qu'il voit arriver. Il pense qu'un pays doit avoir, je l'ai découvert dans votre livre, en tout cas en ces termes-là qui sont très, très simples et qui permettent très vite d'appréhender un personnage, il dit « je suis pour l'armée défensive, mais si on commence à ouvrir des champs de bataille en Europe, on aura des millions de morts. » C'était complètement visionnaire. Alors, on va revenir d'ailleurs sur cette soirée tragique dans un instant, après une première pause. On va revenir sur les circonstances vraiment qui ont les quelques heures qui ont précédé cet assassinat, et l'ambiance, comme vous le disiez d'ailleurs, sous une chaleur étouffante à Paris. Il y avait une vague de chaleur le 31 juillet 1914.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL.
L'heure du crime.
31 juillet 1914. Ce jour-là, Paris étouffe sous une vague de chaleur éprouvante. Il y a beaucoup de monde dans les rues, mais les passants ne flânent pas. Ils ont le visage fermé. Pourquoi ? Eh bien, parce que les nouvelles ne sont pas bonnes. Le 28 juin dernier, à Sarajevo, un Serbe de Bosnie, Gavrilo Princip, membre du groupe Jeune Bosnie, a tué d'un coup de pistolet l'archiduc François Ferdinand, l'héritier de l'Empire austro-hongrois, et son épouse. Et puis, il y a quelques jours, le 23 juillet, le gouvernement autrichien a lancé un ultimatum à la Serbie. La Serbie doit punir sans délai l'assassin de l'archiduc et laisser des policiers austro-hongrois agir sur son sol, dans son propre pays, pour démanteler les réseaux de terroristes à qui ils attribuent la responsabilité de l'attentat. Alors les Serbes ont dit oui pour punir l'assassin, mais ils ont refusé de laisser des policiers étrangers mener l'enquête chez eux. Souveraineté oblige. Et encore, il y a trois jours, le 28 juillet, l'Autriche a déclaré la guerre à la Serbie. Belgrade a été bombardée la veille. La Russie, alliée des Serbes, a décidé aussitôt de mobiliser ses troupes. Le jeu des alliances pourrait entraîner maintenant l'Allemagne, la France et l'Angleterre dans un conflit mondial. En France, une seule voix. Celle de Jean Jaurès, député socialiste du Tarn, une seule voix s'est élevée contre cet enchaînement fatal. Il a même envisagé, grâce à l'Internationale socialiste, de susciter une grève générale des travailleurs européens pour refuser la guerre, pour empêcher ce qu'il appelle la folie des hommes. Dans la presse patriotique, on fustige Jean Jaurès, le traître à la nation, le pacifiste. On suggère, à mots couverts, comme le fait Charles Maurras, que sa disparition serait un bienfait pour la nation. Le seul journal qui prend fait et cause pour Jaurès, bien, c'est le sien. Son journal, L'Humanité, dont il est le fondateur et qu'il anime avec de grandes plumes de l'époque, comme celle d'Octave Mirbeau, de Léon Blum, d'Anatole France, ou encore de Jules Renard. Ce 31 juillet, un certain Raoul Villain déambule dans Paris depuis le matin. Dans sa poche, un pistolet Smith & Wesson 7 mm à 5 coups. Il a 29 ans, il est exalté, il est patriote, il veut la guerre. Il a décidé d'abattre Jean Jaurès et il s'est d'abord dirigé vers le domicile de l'homme qu'il veut tuer. Personne, Monsieur Jaurès, lui dit-on, est à la Chambre des députés. Alors il y va. Mais Jaurès est reparti vers le siège de l'Humanité pour une conférence de rédaction. Villain arrive au journal, mais trop tard. Pourquoi ? Eh bien parce que Jaurès est bienvenu vers 20h pour consulter les dernières dépêches concernant l'Angleterre, dont il espère qu'elle va proposer sa médiation pour éviter la guerre. Mais il est reparti. Vers 21h, il a décidé, lui dit-on, d'aller dîner au Café du Croissant, à l'angle des rues Montmartre et du Croissant, pour parler avec ses collaborateurs et ses amis de l'article qu'il va écrire dans la nuit pour être publié dans l'Humanité du lendemain. Et il a d'ailleurs lui-même choisi ce restaurant, le Croissant, parce qu'il est moins bruyant et plus intime que les autres restaurants du quartier. À cette heure, donc, Jaurès est à table, en train d'expliquer à quelques militants qu'il va dénoncer dans son article, l'article qu'il va écrire tout à l'heure, les ministres français à la tête légère, dit-il, des ministres qui ne font pas tout leur possible pour écarter la guerre. Un article où il tient également à dégager toute responsabilité de son parti dans le déclenchement éventuel d'une guerre mondiale. Il est maintenant 21h30. Raoul Villain est dehors, sur le trottoir, devant la vitre ouverte du café. Il fait toujours très chaud. Un simple voile sépare la salle du restaurant de la rue. À la table de Jaurès, un militant nommé Poisson, qui dîne là avec sa femme à la même table, aperçoit ce rideau. Il voit que le rideau bouge. Il le voit ensuite se soulever légèrement juste derrière la tête du député. Et puis le canon d'une arme, et puis une main, à 20 cm à peine de la tête de Jaurès. Un coup de feu claque, une étincelle rougeâtre, un peu de fumée comme celle d'un cigare, et puis un deuxième coup. Jaurès s'est affaissé sur l'épaule de son voisin, il a à peine tressailli, sans même faire le geste de se retourner. Quelques minutes plus tard, Le médecin, appelé d'urgence, ne peut que constater la mort de la victime. Il est 21h40. Une femme pousse alors un grand cri. Ils ont tué Jaurès.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Alors Bruno Fulini, on va revenir, bon ça c'est le fait divers, c'est évidemment cette une nouvelle qui va faire la une de l'actualité, il va y avoir, les députés vont évidemment observer une minute de silence, les hommages vont pleuvoir finalement sur Jaurès, sur qui on tirait à boulet rouge quelques heures avant quoi.
Les hommages vont pleuvoir, des hommages un petit peu ambigus aussi, c'est-à-dire que tout le monde va essayer de récupérer un peu Jaurès, et puis surtout chacun va essayer de se disculper, non ce n'est pas moi, ou ce n'est pas mon groupe, ou mon parti, ou mon journal, qui a poussé l'assassin à tuer Jaurès. Il y a beaucoup d'ambiguïté si on regarde, et ça va continuer longtemps après, quand 10 ans plus tard Jaurès sera transféré au Panthéon, le chef du gouvernement Herriot fera tout un discours qui est un hommage, mais jamais il ne prononcera le mot socialiste ou le mot socialisme. Il faut quand même regarder avec beaucoup d'attention ces hommages qui parfois sont un peu empoisonnés ou un peu hypocrites. Et toujours est-il que c'est une nouvelle stupéfiante. C'est d'abord le dernier espoir de paix pour les Français qui veulent encore y croire. Et puis on a bientôt cette une de l'humanité en forme de faire-part avec la bordure noire. Jaurès assassiné. On entre dans un... Non seulement on va entrer en guerre, c'est évident, mais en fait on change de siècle à ce moment-là. C'est la fin de la belle époque. On bascule dans le monde moderne.
Alors, encore un mot, vous avez rappelé tout à l'heure le parcours de Jaurès. Bon, vous le faites dans votre livre à travers des documents, et c'est tout l'intérêt du livre Le Monde selon Jaurès, que vous publiez aux éditions Talendier, c'est de reprendre chapitre par chapitre finalement un peu le point de vue de Jaurès sur le socialisme, sur la justice, sur l'histoire, sur la religion, sur la guerre et la paix, bien sûr. Et il y a un chapitre que vous intitulez « La mémoire ». Et là, c'est la mémoire de la haine, c'est la mémoire de tout ce qui a été écrit, prononcé, dit contre cet homme. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des anti-Dreyfusards, la droite, bien sûr, nationaliste, Desroulèdes et les autres. D'ailleurs, il s'est battu en duel, non, je crois.
Il s'est battu en duel contre Desroulèdes, mais alors, il y a une petite particularité, c'est que Desroulèdes avait été banni du territoire pour une tentative de coup d'État pendant l'affaire Dreyfus. Donc, on s'est arrangé, on a fait le duel à la frontière espagnole. Donc, Jaurès a demandé pour son adversaire un sauf-conduit de quelques heures, ce qui a permis à Desroulèdes de faire quelques pas en territoire français. Ils ont échangé quelques balles. Heureusement, bon, l'un était poète, l'autre philosophe. Ils étaient aussi mauvais tireurs l'un que l'autre. Et il n'y a eu ni mort ni blessé. Desroulèdes était un bon escrimeur, mais un très mauvais tireur.
Alors, dans les jours et les semaines qui précèdent, l'année qui précède la Première Guerre mondiale, Jaurès a compris qu'on va vers ce conflit. Il se dresse de toutes ses forces contre cette fatalité. Dans la presse, il y a évidemment l'appel, on dit qu'il est du parti allemand.
Herr Jaurès, on l'appelle Herr Jaurès.
Voilà, bon. Mais ça encore, j'allais dire, c'est rien. La presse peut-être à l'époque aussi est très violente, mais la droite et la gauche, c'est l'extrême gauche, s'unissent parfois contre lui, et notamment les anarchistes. Nous clouerons la charogne de Jaurès vivante contre une porte. Excusez-moi, vous citez...
Là, c'est un personnage un peu particulier, c'est une phrase de Guétry, qui était un ancien syndicaliste qui s'était rendu compte qu'on pouvait faire des sous avec le syndicalisme en suscitant des grèves, en mettant fin à des grèves. Cela dit, il y a une haine...
Excusez-moi, puisque je me suis trompé, effectivement, d'être attribuant aux anarchistes ce qui ne leur appartenait pas. Mais là, Georges Darien, dans L'ennemi du peuple, l'organe anarchiste, il parle de l'humanité feuille de chou décolorée que grignotent des trois dents qui leur restent les vieux lapins du socialisme pacifique. Enfin bon. Mais ça se termine, c'est terrible. Tu recevras du bronze aujourd'hui, Jaurès, et demain du plomb. Donc c'est quand même
menaces. Ce qu'il faut voir aussi, Jaurès est détesté à l'extrême droite, il est détesté à l'extrême gauche parce qu'on le trouve trop modéré, comme il est légaliste, il est socialiste, mais il admet le suffrage universel. universel. Il veut qu'on change la société par la loi. Donc ça énerve un petit peu les ultra-révolutionnaires et les anarchistes. Et puis ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'à l'époque, il y a un ton pamphlétaire. C'est-à-dire des choses qui aujourd'hui paraissent insensées, invraisemblables, sont monnaie courante dans la presse. On a une presse libre depuis 1881 seulement. On s'en donne à cœur joie. C'est un vrai métier pamphlétaire. Ouais. Et l'assassin de Jaurès a le tort de prendre au pied de la lettre des attaques qui sont très violentes, mais qui au départ sont purement littéraires.
Ouais. Bon, enfin, Jaurès en a conscience. Vous citez un texte de lui où il s'adresse à ceux qu'il critique et il dit dans vos journaux, dans vos articles, chez ceux qui vous soutiennent, il y a contre nous. Vous entendez un perpétuel appel à l'assassinat. Il prononce ça vraiment.
Oui, c'est très émouvant
dans un
parce que c'est
très émouvant.
C'est un an avant l'attentat. C'est un discours qu'il prononce dans l'hémicycle. Et d'ailleurs, toute la droite et l'extrême droite protestent. Pas du tout, mais pas du tout. Ouais. Alors qu'effectivement, l'idée, elle, fait son chemin au moins dans le cerveau de Villain.
Alors, on va faire une nouvelle pause dans l'émission et on va revenir sur Villain, sur le procès d'abord, quand même, la deuxième mort de Jean Jaurès. Et puis nous aurons également au cours de cette émission, je vous le redis, Sophie Darblin de Mamouni qui s'est intéressée, elle, spécifiquement au personnage de Raoul Villain. A tout de suite.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et on retrouve Bruno Fuligny, Le Monde selon Jaurès, et cet ensemble de textes sélectionnés par Bruno Fuligny qui paraissent aux éditions Talendier sous ce titre et ce sous-titre polémique, réflexion, discours, prophétie. C'est-à-dire qu'on voit vraiment vivre et penser à un homme dont tout le monde connaît le nom, vous me le disiez hors micro à l'instant, tout le monde connaît son nom.
Tout le monde connaît sa tête,
voilà, on l'a vu.
Mais qui était-il bon, et qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il pensait? Le principe de ce livre, c'est de lui donner la parole à travers une sélection, et on voit un Jaurès qui est très contemporain, en fait, qui se pose des problèmes sur la mondialisation des échanges. Un Jaurès aussi, quand on dit prophétique, qui a très bien compris ce que va être une guerre au XXe siècle. Ouais. Il dit qu'on n'imagine pas une guerre courte, ça va être une guerre longue, des cadavres, des millions de morts, la boue, la maladie, et un changement complet de société. Et à un moment d'ailleurs, dès 1911, il dit à la droite belliciste, finalement c'est vous les conservateurs qui devriez vous opposer à une guerre qui va déchaîner toutes les forces.
Elle va vous emporter.
Et
avec
elle va changer la société. Ouais. Et c'est pour prévenir cette guerre et bien qu'il s'attire la haine des nationalistes et qu'il va être assassiné le 31 juillet 1914.
Alors on reviendra plus complètement tout à l'heure sur la personnalité, le parcours personnel de Raoul Villain avec Madame Darblin qui vraiment a consacré tout un ouvrage à la biographie de Raoul Villain. Mais d'abord, on va rappeler ensemble ce procès incroyable. C'est-à-dire qu'il est arrêté, évidemment, tout de suite, le jour même de l'assassinat. En 1915, la justice veut ouvrir le procès de Raoul Villain. Et puis, finalement, on va décider... Vous allez me dire, mais on décide que c'est peut-être pas opportun, en pleine guerre, alors qu'on a besoin de l'union nationale, de rediviser les Français autour d'un événement comme celui-là, et finalement, il reste en prison toute la guerre. C'est comme ça
C'est exactement ça. On imagine mal, évidemment, un procès ouvert en pleine période de guerre, à un moment en plus où il y a une censure sur les journaux, ça aurait été ravivé toutes sortes de plaies. Donc finalement, Villain passe toute la guerre en préventive. Cet homme qui ne rêvait que plaie et bosse, reconquête de l'Alsace-Moselle, ne verra pas un obus, pas une balle, pas une tranchée. Ouais. Il va rester à l'ombre pendant toute la durée de la guerre et pour être jugé ensuite. Et quand on voit un petit peu les pièces de l'enquête et de l'instruction, on est confondu. On est confondu par le personnage. Et d'ailleurs, lorsqu'il se présente dans la salle d'audience, tout le monde est étonné. Quoi, c'est ça, l'assassin de Jaurès? On voit un personnage falot, fade, étrange pour le moins, pas très viril, pas très convaincant, qui n'a pas un pédigré non plus très sûr, un homme qui est tout d'hésitation. Un de ses anciens professeurs dira que c'était un incomplet. Ouais. Quelqu'un de pas complètement abouti. En fait, c'est un raté, ce vilain.
Mais le président, quand même, de la cour d'assises de la Seine, hein, de Paris, va lui dire: Monsieur Villain, vous êtes un patriote. Ça commence bien. Pour l'indépendance de la justice et l'objectivité des débats. Les débats s'ouvrent le 29 mars 1919. Le procès va durer 6 jours. Il va déboucher sur l'acquittement de Villain. Et en prime, la veuve de Jean Jaurès
est condamnée aux dépens.
Et condamnée aux dépens. C'est elle qui va payer les frais du procès.
Oui, puisque en fait, elle a saisi la justice à tort, nous dit le jury, puisqu'il n'y a pas eu meurtre. Jean Jaurès n'est pas une victime. Donc c'est évidemment.
Attendez, il a tué devant témoin Jaurès, mais quand on va poser la question au jury. Deux questions en fait. C'est la première question, c'est Raoul Villain a-t-il tué
enfin, le jury va nier même que Jaurès ait été assassiné. Alors que bien sûr, il n'y a aucun doute. Il faut le dire, il n'y a aucun doute sur la culpabilité de Villain. Oui. Villain aurait bien aimé se fondre dans la foule au moment du meurtre. Il lâche son arme dans le caniveau, il a démarqué ses vêtements, il n'a pas de pièce d'identité sur lui. S'il s'était fondu dans la foule, nous dira le gardien de la paix qui l'a arrêté, on l'aurait jamais retrouvé. Oui. Voilà. Sauf que, malchance pour lui, il y a un certain Georges Marty, gardien de la paix, sur le trottoir d'en face. Oui. Et donc, qui l'arrête quasiment instantanément, et même qui va finalement le protéger d'un lynchage par la foule. Parce que, évidemment, les occupants du Café du Croissant et tous les ouvriers du livre qui sont dans ce quartier-là, donc une envie, c'est d'écharper l'assassin. Et donc, il va être conduit au commissariat, il va être protégé de la foule. Et à partir de là, Villain, dont la culpabilité ne fait aucun doute, eh bien, va bénéficier d'une justice aberrante. Il y a un vrai déni de justice sur cette affaire.
Voilà, et l'avocat général, dans son réquisitoire, je cite, avait demandé une condamnation. Mais une condamnation atténuée, même pour une condamnation atténuée, il n'a pas été suivi. Quoi.
Et habileté suprême, il a deux avocats à Villain, et l'un des deux avocats, Alexandre Zévaès, est un député socialiste, mais d'une tendance opposée à Jaurès. Et Zévaès, même s'il s'en défendra, d'un certain point de vue, va incarner aussi l'opposition de gauche à Jaurès, par-delà la mort, en défendant brillamment, d'ailleurs, l'assassin de Jaurès.
Voilà, donc après ce procès inique, je crois que le terme là n'est pas trop fort, Raoul Villain est rendu à la liberté. Il va rester un peu en France, il va avoir des soucis avec la justice, puis il va partir vers un périple, et on va parler de ce périple et aussi du parcours de cet homme d'où il vient, d'Alsace-Lorraine, et c'est Sophie Darblat qui va nous expliquer ça dans un instant.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL.
L'heure du crime.
Émission spéciale sur l'assassinat de Jean Jaurès, les conditions de son procès, la personnalité de son assassin. C'est vrai que les célébrations du centenaire 1914-2014 commencent, on le disait tout à l'heure, à Paris, aux Archives Nationales. Il y a une exposition sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure, d'ailleurs, parce que je pense que tous ceux qui s'intéressent à Jaurès doivent aller voir cette exposition. Et tout de suite, on prend en ligne Madame Sophie Darblat Mamouni. Bonjour madame.
Bonjour Jacques Pradel.
Alors vous êtes l'auteur d'un livre que j'avais trouvé passionnant à l'époque, c'est dans une collection qui s'appelle Les Grands Procès aux éditions De Vecchi, et vous aviez donc publié l'affaire Villain. Alors on va pas refaire toute la biographie de Villain, mais d'abord peut-être pouvez-vous nous donner quelques pistes pour comprendre d'où il vient ce nationalisme exacerbé. Ça vient de ses origines, il est né à Reims.
Alors oui, effectivement, il est né à Reims en 1885, et c'est surtout par le biais de son père qui aurait développé un petit peu cet esprit de patriotisme, puisqu'il lui raconte, son père raconte à lui et à son frère aussi, le siège de Metz.
En 1870.
En 1870. Et donc c'est ce sentiment-là de défense de la patrie qui commence à naître donc dès son enfance.
Voilà, d'accord. Voilà. Et donc récupérer l'Alsace-Lorraine, fixé sur la ligne bleue des Vosges, etc. Il va faire partie d'un organisme assez radical, chrétien, qui s'appelle le Sillon.
Oui, le Sillon, qui a été fondé par Marc Sangnier. Toutefois, c'est surtout une seconde famille qu'il recherche dans cet organisme. Et d'ailleurs, lorsque il va constater que le Sillon se dirige à défendre des idées beaucoup trop politiques, eh bien pour lui, il va s'en détacher, parce c'est davantage l'aspect mystique aussi et religieux.
Ah, il paraît qu'il pleurait en passant devant la statue de Jeanne d'Arc, c'est vrai ça?
Et oui, il pleure devant la statue de Jeanne d'Arc, pas seulement, il pleure aussi lorsqu'il voit une communiante avec des traits purs devant l'Acropole à Athènes. C'est un être extrêmement sensible, émotif, à fleur de peau.
Alors, il voyage, il va en Angleterre, enfin, il bouge pas mal. Il est archéologue, je crois, de formation en tout cas, non? Il fait des études d'archéologie, non?
Il est diplômé ingénieur agricole. Il a suivi des études d'ingénieur d'agriculture. Il a été malheureusement, il n'a pas pu travailler dans ce domaine-là, puisque déjà très jeune, vers une vingtaine d'années, on constate un certain déséquilibre. Il est employé chez un régisseur, et pour lui, la famille est quelque chose de très important. Et quand il voit le couple se disputer, il commence à mettre son grain de sel et il ne supporte pas de les voir en mésentente. Et donc, il sera évincé de la ferme et il n'exercera réellement jamais vraiment un métier.
Ouais, alors ceux qui ont pensé, qui l'ont dit d'ailleurs après l'assassinat de Jaurès, que Villain était un fou furieux, quoi, que c'était un malade mental, rappelle que sa mère et sa grand-mère avaient été hospitalisées
Sa mère, il ne l'a pratiquement pas connue, et c'est aussi ce qui a fait un petit peu développer une personnalité en quête d'amour maternel, puisque dès l'âge de 2 ans, elle a été internée et elle est morte 30 ans plus tard à la ville de Chalon-sur-Marne. Ouais. Elle a été déclarée paranoïaque.
Et alors, pour vous, alors, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'on sait du mobile réel de Raoul Villain? Quand est-ce qu'il prévoit est-ce qu'il prémédite cet assassinat? Il achète une arme, quand même. On l'a pas dit, mais il va suivre pendant au moins 24 heures sa victime, Jaurès, qui ne connaît pas physiquement,
Non, mais il essaie de voir donc où il habite. Il peut le suivre facilement aussi à pied en allant, puisqu'il se déplaçait, il faisait de grandes marches à pied, Jaurès, il partait de l'Assemblée nationale jusqu'à son domicile dans le 16e à pied. Et surtout, en fait, c'est par le biais aussi des titres des journaux qui fustigent donc Jaurès. Par exemple, dans...
peu importe le titre.
On va faire en sorte de s'attaquer à la personne de Jaurès. Il ne défend pas, il vote contre la loi des 3 ans du service militaire.
Alors, les 3 ans, c'est ça, c'est-à-dire que Jaurès a fait beaucoup parler de lui à ce moment-là, parce que, et c'est vraiment là qu'on comprend que l'atmosphère est à la préparation de la Première Guerre mondiale, qu'il y a une loi qui va être votée, contre laquelle donc Jaurès s'insurge, bien sûr. On va porter le service militaire à 3 ans. Bien pour fabriquer des soldats, pour être prêts... le grand jour, quoi.
Oui, et ça, donc, Raoul Villain n'arrive pas à concevoir qu'on puisse pas partir, défendre sa patrie et y laisser sa vie. Parce que lui, pour lui, c'est une évidence, la patrie, il est prêt à laisser sa vie pour défendre la France.
Alors, attendez, c'est une décision personnelle pour vous? Parce qu'on a dit beaucoup qu'il avait peut-être été téléguidé parce qu'il aurait rencontré quelqu'un à l'ambassade russe à Paris.
Oui.
C'est vrai, ça?
Alors après, c'est ce qui est dit, il y a aussi l'hypothèse allemande, mais vu le profil ça va aller à s'accentuant, on parle d'hérédité fort chargée, d'un être inachevé, incomplet, avec des idées assez fixes, qui n'a pas de raisonnement vraiment allant jusqu'au bout, une conscience politique amoindrie, donc on a du mal à imaginer qu'il puisse vraiment s'investir pour combattre vraiment avec d'autres gens des idées, aller plus loin que cet acte qui pour lui, c'est une évidence, Jaurès est un traître.
C'est sa mission, il a une mission, presque
mission,
divine.
Et il va aller jusqu'au bout, et il le reconnaîtra après. Il parle de patrie, c'est pour défendre la patrie.
Alors on va faire une pause dans l'émission, vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants, parce que va falloir parler de la suite de l'histoire pour Raoul Villain, qui a eu, je disais tout à l'heure rapidement, un destin funeste, parce que 22 ans après avoir assassiné Jaurès, il a été lui-même assassiné dans des circonstances qu'on va rappeler.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et nous revenons à Sophie Darblade Mamouni dans un instant et à Bruno Fulini tout de suite. Bruno Fulini, c'est lui l'auteur de Du Monde selon Jaurès, ce livre qui, en cette année de célébration du centenaire de la disparition de Jaurès, met à disposition du public, on va dire, des éléments qui sont incontestables, puisque c'est lui qui les a écrits, que vous publiez donc aux éditions Talendier. Et on peut mieux comprendre à travers ces textes le point de vue, la philosophie, les réflexions de Jean Jaurès. Et puis Sophie Darblade Mamouni, elle a écrit dans la collection des grands procès des éditions de Vecchi, l'affaire Vilain. Alors, un mot, Bruno Fulini, on parlait ensemble hors micro de Raoul Vilain. Vous avez, en tant qu'historien, eu en main des documents où Vilain parle de ses projets, si j'ose dire, de ses projets assassins, des documents que vous avez trouvés, mais qui datent bien après l'assassinat de Jaurès.
Des documents avant, des documents après. Ouais. Vilain, s'il vivait aujourd'hui, on le qualifierait de loup solitaire, parce que moi non plus, je crois pas du tout qu'on ait armé sa main. Ce genre de personnage est impossible à tenir, en fait, à téléguider. Par contre, il rêve d'une action d'éclat. Un an avant de tuer Jaurès, il fait un voyage en Alsace, qui à l'époque est donc sous domination allemande. Il va au Königsbourg, résidence du Kaiser. Il a envie d'assassiner l'empereur d'Allemagne.
Ah, d'accord.
Et puis il y renonce parce que, dit-il, l'empereur d'Allemagne finalement est le seul souverain européen qui aime vraiment les arts. Donc drôle. Puis il change d'avis, bon, il va tuer Jaurès. Et puis alors, il faut savoir que 10 ans après son acquittement, moi j'ai une lettre de lui à un proche où il explique qu'il irait bien faire un attentat contre l'ambassade américaine à Paris. Donc c'est quand même un personnage extraordinairement perturbé, qui rêve de violence alors qu'il n'est pas vraiment fait pour cela. Et bon, il y a eu ce drame, il y a eu un moment, une conjonction qui a rendu possible ce crime.
Alors on va maintenant voir quel était son parcours, justement, après sa libération de prison avec Sophie Darblade Mamouni. Donc, il est libéré. Quelques temps après, il a des soucis avec la police, d'ailleurs, et la justice, parce que je crois qu'il a trempé plus ou moins dans une espèce de trafic de fausse monnaie, non ?
Oui, exact. De fausse monnaie. Il est pris en flagrant délit de trafic de monnaie. Oui. Et il va quand même être inculpé, bien sûr. Il va retourner à la prison de la santé qu'il avait quittée 15 mois plus tôt. Oui. Et alors là, justement, sa responsabilité est atténuée quand même en état de son état mental, donc sortir quelques temps après avec 100 francs d'amende, voilà. Ouais. Et ensuite, ça va être une errance, parce que il essaie de voyager, il ne sait plus, on perd sa trace pendant quelques années, pour le retrouver ensuite à Ibiza, en Espagne.
Ah voilà, dans l'île d'Ibiza, voilà. Alors il faut dire qu'entre-temps, il a fait un héritage, qu'il met plus ou moins, si j'ai bien compris, à l'abri des soucis matériels,
oui. Oui, mais il est aussi très économe, dit-il, hein. Il a quand même une vie un peu comme les domestiques, donc il peut se priver de beaucoup de choses, il va économiser et en même temps cet héritage lui permettra de prendre le bateau pour Ibiza. Il a toujours rêvé des îles, hein, de toute façon, il voulait déjà partir à Tahiti, il a voulu essayer de partir aux États-Unis, malheureusement on lui a refusé son livret militaire. Et là c'est Ibiza. Alors il y passe à une centaine de kilomètres dans le village de Saint-Vincent. Il doit y rester quelques temps et puis au final il s'y installe tout simplement parce qu'il fait la rencontre de René-Paul Gauguin, qui est le petit-fils du célèbre peintre. Et donc, comme disait M. Fulini, il admire les arts, hein, c'est quand même quelqu'un qui a cette sensibilité-là. Et alors, du coup, il décide de s'installer avec René-Paul Gauguin, qui voit bien quand même, qui a discerné le personnage.
Ouais, mais qui l'aide à construire sa maison, si j'ai bien compris.
Alors voilà, il veut construire une maison. Ouais. Alors, cette maison, il se dit, ma foi, je vais peut-être essayer un peu de l'aider pour comme ça... on aura peut-être quelque chose qui va tenir un peu sur ses fondations. Oui. Et puis il se rend compte qu'il n'est pas payé. Donc Raoul Vilain va terminer cette œuvre. Alors là, ce sont des escaliers qui mènent nulle part.
Attendez, prenez le temps, parce que c'est un peu une maison à la Dali avant Dali, non ?
Oui, hein, il y a finalement beaucoup de tourelles. Ouais. C'est un aspect. Alors, de l'intérieur, on peut surveiller. Ouais. Oui. Oui. On dédie d'ailleurs cette chapelle à Jeanne d'Arc. Hein, on est toujours là. Il le dit d'ailleurs à René-Paul Gauguin. Il parle de dévotion à Jeanne d'Arc. Ouais. Il reconnaît qu'il souffre d'un complexe de Jeanne d'Arc. Ouais. C'est son mal. Ouais. Voilà.
Alors, c'est une maison d'original. Et d'ailleurs, les gens du coin l'appellent le fou du port. Hein,
Fou du port. Il se promène dans les rues. Il a revêtu sa tenue coloniale de planteur. Et puis, il chante à tue-tête Frère Jacques en riant. Effectivement, Et il n'a qu'une cinquantaine d'années, hein, il a 50 ans. Ouais. Donc, on voit bien quand même l'évolution de sa maladie, de cette déficience et de ses problèmes psychologiques.
Alors,
qui ont commencé d'ailleurs très tôt, je dois dire, hein, vers l'âge de 13 ans. Hein.
Ah bon? Oui, parce que là, on parlait de son état mental qui avait attiré la clémence de la justice, pour l'histoire de la fausse monnaie. Donc, avant, il avait fait des séjours lui-même dans des instituts spécialisés.
À ma connaissance, non. J'ai pas trouvé d'informations à ce sujet.
Bon. Alors, je voudrais, là, je vois, on arrive vers la fin de l'émission, je voudrais qu'on s'arrête à la date fatidique du 13 septembre 1936. On est donc dans ce village de San Vincent, sur l'île d'Ibiza. Il y a cet homme, bon, qui chante Frère Jacques, comme vous venez de le raconter, qui rit, effectivement, qui est quand même bizarre, hein. Il est grand, il est maigre, il est voûté, il est pas rasé, et on est en pleine guerre d'Espagne.
Tout à fait.
Et qu'est-ce qui va se passer, alors, ce 13 septembre 1936
les anarchistes espagnols qui débarquent, hein, au début du mois de septembre sur l'île d'Ibiza. Donc, la terreur, évidemment, s'empare des habitants. Tout ce qui touche, hein, de près ou de loin à la religion est sauvagement exterminé. Mais Raoul Villain, lui, dit on sait qu'il n'a pas peur. Il le dit haut et fort à tout le monde. Pourquoi lui en voudrait-on, puisqu'il est français, hein. Tout ce qui touche à l'Espagne ne le regarde pas. Et puis, qui connaît son histoire, il s'en est pas vanté, ceci dit, hein. Il n'en a parlé à personne, même pas au petit-fils du peintre Gauguin. Ouais. Et donc, après, alors, on entend un coup de feu dans la nuit du 13 au 14 septembre, ou alors est-ce que c'était la nuit d'après? Les témoignages sont un petit peu flous. Toujours est-il qu'on le retrouve baignant dans son sang. Il a une balle à terre à la gorge, une autre à la poitrine. Malgré les soins d'un pharmacien, il aurait agonisé toute la journée. Il s'éteint dans la nuit du 14 au 15 septembre, bien que sur son extrait d'acte de naissance, il y ait marqué un décès au 17 septembre.
Ouais, ce qui est fou, c'est que 22 ans après, il meurt tué par deux tirs quasiment à bout portant, exactement comme il avait tué Jaurès, quoi, en fait. Hein. Ce personnage-là, vous y êtes intéressé aussi, Bruno Fulini?
Impossible de s'intéresser à Jaurès sans croiser Villain, qui est vraiment...
Mais vous partagez le même point de vue sur lui.
Je suis tout à fait d'accord sur le jugement. Villain, c'est l'anti-Jaurès. Jaurès était un homme d'exception, extraordinairement intelligent, brillant, honnête. Villain, c'est un raté, un taré. Alors, il a l'excuse de la maladie, d'une famille absente, de la folie. Et puis, il y a cette justice immanente, hein, qui vient le frapper, même si, sans doute, les gens qui ont tué Villain ignoraient qu'il était l'assassin de Jaurès.
Alors, avec des si, on peut tout faire, hein. On se dit, s'il n'était pas mort ce jour-là, est-ce que ça aurait changé la face des choses?
Peut-être, paradoxalement, Villain a rendu un service à Jaurès en le faisant disparaître au moment où, de toute façon, l'espoir de paix n'existait pas. Et si nous célébrons Jaurès aujourd'hui, c'est parce qu'il n'est pas allé au-delà de cette date fatidique du 31 juillet 1914. Il n'a pas vu la Grande Guerre. Il ne s'est compromis ni dans la guerre, ni dans la révolution bolchevique et ce qui va suivre.
Je vous remercie beaucoup. Je renvoie tout le monde donc à votre livre, tous ceux qui s'intéressent à ce personnage de Jaurès qu'on célèbre particulièrement en cette année de centenaire de sa mort. Le monde selon Jaurès aux éditions Talendier, polémique, réflexion, discours et prophétie. Et puis, merci beaucoup Sophie Darblad-Mamouni.
Merci à vous. Merci à vous de m'avoir invité.
Et je renvoie tout le monde donc à votre livre L'Affaire Villain aux éditions Devecchi. L'émission est terminée. On retrouve Flavie Flamand dans un instant.